Je vais animer cette table ronde avec des auteurs prestigieux. Je me sens très chanceuse, j'espère que vous aussi. Alors, nous allons commencer par Mercedes Laquet, qu'on ne présente plus, mais pour ceux qui, par hasard, ne la connaîtraient pas, auteur des Héros de Val-de-Marc, plus de 25 volumes, deux cycles d'urban fantasy, c'est important de le savoir, et une auteure qui a commencé... avec d'autres auteurs prestigieuses et qui, depuis, continuent à fournir la fantasy en très beaux romans. Nous avons de l'autre côté Sylvie Denis, qui est l'auteur d'un roman fantasy qui s'appelle Haute École, que je vous conseille vivement, et qui est un petit peu une équilibriste du passage entre la science-fiction et la fantasy. Si ça vous va, bien sûr, Sylvie. Elisabeth Van Arbour, qu'on ne devrait plus présenter non plus. Je sais que son éditeur à lire au Québec la surnomme la grande dame de la fantaisie québécoise et qu'elle n'aime pas tellement ses... science-fiction, pardon. Et elle est l'auteur de nombreux ouvrages, là aussi en science-fiction et en fantaisie. Mes côtés, Kai Meyer, qui est un auteur allemand et qui a écrit, qui est traduit en de nombreuses langues, qui a écrit son dernier roman, La soie et l'épée, dans la catégorie jeunesse, a remporté le prix Imaginal de cette année. Il a notamment publié aussi une trilogie plus adulte, dont le premier roman est La fille de l'alchimiste. Il sera traduit aujourd'hui par Lionel Davout. Sylvie Miller fera la traduction pour Mercedes Laquet. Et en dernier, Oliver Perru, qui est un auteur de scénarios et dessinateur de bande dessinée, qui est passé par le cinéma, la télévision, et qui a gagné avec son camarade Patrick Masper le prix Elbakin.net en 2011 pour Les Hauts Conteurs, et qui est l'auteur de Druide. Voilà. Et le thème de cette table ronde, c'est la fantasy, une littérature de la nostalgie. Moi, ça ne me semble pas, et ça me semble une question très ouverte, mais à laquelle je pourrais dire non tout de suite. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que peut-être représente la nostalgie pour les auteurs qui nous entourent. Eh bien, commençons par Mercedes Laquet, peut-être.
You do know my answer when I can't think of an answer to the question, don't you, by now?
Yes, I do.
Mon Dieu, regardez, zombies! Donc, vous connaissez maintenant bien ma réponse habituelle quand je bute un peu sur une question et que je ne sais pas trop quoi dire, c'est je pointe le doigt et je crie d'un coup, Mon Dieu, des zombies!
Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a envie de s'exprimer sur quel est son ressenti de la nostalgie ? Elisabeth ?
Ça vient du grec. Et c'est ce que ressent Ulysse, qui est perdu dans un long voyage et qui pense à chez lui.
And so she thinks of Ulysse as lost in a long travel.
D'une certaine façon, moi j'aurais tendance à dire que, puisque c'est sous la forme d'une question, n'est-ce pas, la littérature, la fantaisie est-elle littérature de la nostalgie, j'aurais tendance à répondre que oui, assez. Peut-être pas la fantaisie de vulgarité, action, créatures monstrueuses et autres êtres noirs, mais un certain type de fantaisie, ce qu'on appelle en anglais la high fantasy, a quelque chose à voir avec la mémoire, avec le regret d'une espèce de période fantasmée, meilleure, fantasmée plus belle, qui est d'une certaine façon l'enfance, qui est d'une certaine façon le moment où existaient des êtres plus grands que la nature, les rois, les reines, qui étaient le père et la mère. Cette espèce de royaume où le temps n'était pas comme le temps normal, où le monde était infiniment plus grand, plus beau, plus merveilleux. De ce point de vue-là, oui, je dirais qu'une grande partie de la fantaisie est une littérature de la nostalgie, parce que c'est une littérature de la mémoire.
D'accord. Et Et est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que vous pensez qu'on est peut-être tous un peu des enfants qui regrettons le moment où nous étions plus petits?
Non, nous ne sommes pas des enfants qui regrettons le moment où nous étions petits, mais nous nous en souvenons, et cela nourrit ce monde-là qui nourrit, je pense, l'imaginaire de beaucoup d'auteurs de fantasy. Alors que ce qui nourrit l'imaginaire des auteurs de science-fiction a subi une série de transformations beaucoup plus radicales, mais l'archaïsme qu'on trouve très souvent dans la fantasy, par exemple, et qu'on retrouve quelquefois dans la science-fiction, bon, c'est là aussi mots, ces royaumes, ces choses, c'est le domaine des fantaisies, c'est cette espèce d'univers, cette espèce de vue de temps et d'espace qu'on percevait comme différent de l'espace et du temps de notre vie ordinaire et il est dans le passé, alors que l'espace et le temps qui est différent de celui de notre vie ordinaire qui est dans le futur, et bien, il n'a pas du tout la même connotation fantasmatique ni la même connotation émotionnelle.
D'accord. Alors est-ce que la fantaisie urbaine, par exemple, n'est pas le signe que le genre se tourne aussi vers ce qui l'entoure? Kai Meyer, vous qui écrivez, qui êtes considéré comme l'écrivain du réalisme magique, est-ce que pour vous la nostalgie semble importante dans ce que vous écrivez?
Yes, of course it is, definitely. I would even go as far as to say that most of what I do is fed from my own nostalgia. Going back to my childhood and going back to the books I read as a child, I always try, maybe sometimes unconsciously, but I always try to get back to the feeling I had when I read the first fantasy novels that I really fell in love with. So when I write, it's always going back to my own emotions I had as a child. So for me, the work on a fantasy novel is definitely very nostalgic.
Je répondrai oui, bien sûr. J'irais même jusqu'à dire que la plupart de ce que j'écris se nourrit de ma propre nostalgie, c'est-à-dire celle de mon enfance et des livres que je lisais quand j'étais enfant. Parfois, et je pense que c'est quelque chose d'inconscient, mais je reviens à ces émotions que j'avais quand j'ai lu mes premiers romans de fantasy et qui m'ont fait tomber amoureux du genre et avec lesquels je suis tombé amoureux à cette époque-là. Donc je retourne aux émotions et à cet émerveillement que j'éprouvais quand j'étais un enfant, et c'est ce que j'essaie de travailler à travers mes romans de fantasy, ou en tout cas la plupart.
Bien, et alors est-ce qu'en tant que lecteur de fantasy, est-ce que vous pouvez dire que peut-être nous sommes des personnes qui regrettons les choses de notre passé ou qui aspirons à revenir en arrière? Qu'est-ce que vous pensez de la phrase « c'était mieux avant » Mercedes, j'aurais un peu plus de chance cette fois.
I'm not going to talk about zombies this time. I am going to be the lone dissenting voice, perhaps, in that I don't think fantasy is necessarily a literature of nostalgia. I think it's a literature of the unexpected. Science fiction is based on science, which by its nature is a predictive entity, so that you can postulate what is to come from what is happening now. Whereas fantasy is a literature where the unexpected happens all the time because you don't necessarily know what the rules are.
Alors là, cette fois-ci, je ne vais pas prétendre qu'il y a des zombies, mais par contre, je vais peut-être être une voix un peu solitaire au milieu de ce débat. Puisque pour moi, la fantasy n'est pas nécessairement liée à la nostalgie, je dirais plutôt que c'est une littérature de l'inattendu. C'est-à-dire que dans la SF, qui est basée sur la science, on a une entité prévisible, c'est-à-dire qu'on peut, à partir du présent, déduire ce qui va arriver. Alors que dans la fantaisie, on ne sait pas nécessairement à quoi s'attendre, puisque quand on démarre un livre, on ne connaît pas nécessairement les règles qu'a installé l'auteur, et donc à partir de là, tout est possible.
Oliver, vous qui, dans votre roman, jouez avec des classiques de la fantasy, avec, je ne vais pas dire clichés, mais des topics habituels de la fantasy, qu'est-ce qui vous fait aller vers ces choses classiques?
Disons que moi, je suis un vrai nostalgique de l'enfance. J'adore écrire, j'adore me dire que j'écris pour les enfants, et quelque part, mes personnages sont toujours pris dans des problèmes de mémoire, qu'ils aient 40 ans, 20 ans, ils ont toujours quelque chose en eux qui les ramène en arrière. Et pour, en fait, il faudrait peut-être distinguer plusieurs sortes de nostalgie. Il y a la nostalgie presque, celle qui concerne les personnages, donc qui vivent dans leur passé, qui ont des failles en eux, et ils sont toujours tournés vers leur mémoire, donc ça crée des personnages tristes. Et il y a une, Elisabeth disait, il y a une espèce de nostalgie mythologique, où on est nostalgique d'un monde mythique avant qui s'est effondré, qui était toujours mieux avant, plus grand, plus lumineux. Et il y a une troisième nostalgie, une fac, je dirais, pragmatique, c'est juste des univers qui périclitent, des villes qui s'effondrent, ou des rois qui étaient bons avant qui deviennent méchants. Et quand on a les trois éléments, peut-être dans une même histoire, on peut dire qu'on est à fond dans une littérature de nostalgie suicidaire, dépressive. Et quand on n'a pas les trois, je me dis qu'il y a quelque part l'espoir qui vient se glisser entre ces trois types de nostalgie, et c'est là qu'on a un curseur à ajuster. Est-ce que c'est un récit dépressif, est-ce que c'est nostalgique avec de l'espoir, ou... Et donc moi, sur mon roman druide, c'est vrai que du coup je suis à fond dans, c'est très noir, c'est très sombre, et tous les personnages sont toujours attirés vers leur passé, ils regardent plus en eux que dans l'aventure, que dans ce qui se passe devant eux. Et donc on peut dire que oui, pour ce qui me concerne, donc on parle de clichés, je suis rentré à fond dans les personnages tristes, torturés, sombres, donc voilà.
Sylvie, peut-être une idée différente, vous qui proposer dans Haute École un système d'éducation un petit peu difficile. Est-ce que pour ces enfants-là, la nostalgie...
Vous parlez de distinguer à partir d'un sentiment de nostalgie que lui est-ce qu'il veut faire éprouver un sentiment de nostalgie à son lecteur. Moi, je n'essaie pas vraiment de faire un petit peu d'incidence. Je ne crois pas consciemment. Pas dans ce livre-là. Il y en a peut-être. Pour moi, la nostalgie, c'est une chose que je trouve parce qu'en fait, on sait que c'est pas. On sait qu'on ne reviendra jamais à l'enfant du fils avec les royaumes d'un fils enfermé. Mais on veut quand même. C'est pour ça que la nostalgie, ce n'est pas quelque chose de simple. En général, quand on parle de nostalgie, on vous dit « Ah, mais vous êtes nostalgique », ce n'est pas très... C'est une espèce de petit côté péjoratif. Alors qu'on en a tous besoin, et que c'est quelque chose de particulièrement naturel. Donc, il n'y a aucune raison d'obstiner les gens avec une question de nostalgie. Donc, pour moi, la réponse est « Oui, parfois ». Pas nécessairement pour moi, mais après ma position en tant que lectrice, ma position en tant que lectrice, c'est pas de rechercher l'auteur. En tant qu'auteur, c'est pas moi de
dire. Bon, alors, est-ce que une question que je me suis posée, c'est finalement si on est nostalgique et si on rêve ou si on désespère de ne pas pouvoir retrouver ce qui a été perdu, pourquoi est-ce qu'on écrit en fantaisie? Parce que finalement, on pourrait très bien se contenter d'écrire du roman historique et de parler du passé qui nous concerne. Donc là, on se retrouve avec... Le monde secondaire vous permet. Le monde secondaire vous permet à tous une liberté vis-à-vis de ce dont vous parlez, du passé dont vous parlez, par exemple.
Moi, je me suis essayée à la pseudo-histoire, c'est-à-dire à l'uchronie. Effectivement, ce n'est pas ma part.
C'est tellement amusant.
Est-ce que le monde secondaire nous permet de...
d'être plus libre pour parler du passé?
On les a ratés dans le futur, ils étaient là, on arrive, ils ne sont plus là. Et on les a ratés, et l'équivalent, on les a perdus, d'une certaine façon. Donc, on est aussi libre dans un cas que dans l'autre. Dans les deux cas, il s'agit de monde secondaire, effectivement. Et c'est ce qui nous permet, c'est la fiction qui nous permet cette liberté-là. C'est une nostalgie. Non, je ne veux pas dire qu'elle n'écoute rien, parce qu'en fait, elle trouve quelque chose.
Et est-ce que du coup être nostalgique, c'est se dire je vais écrire sur des mondes qu'on invente, c'est se dire je vais pouvoir réaliser tout ce que je n'ai pas réalisé. Kai, peut-être.
Did you ask me? Okay. Well, I have written both. I have written fantasy novels and I have written quite a lot of historical novels. And I never saw that much of a difference between them. Because if you write in a fantasy world or in a secondary world, you also try to incorporate the history of that world. So I think every good fantasy novel is also a historical novel. I mean, the best example is The Lord of the Rings, which very much feels like a historical novel because Tolkien knew everything about this world. And one of the things Tolkien has been confronted with a lot was his nostalgia towards an earlier England, which he personified in the Shire. But even Tolkien burned down the Shire in the end. So I'm not so sure about that. But I don't think it's much of a difference.
Okay. For you, Mary.
J'ai écrit les deux. J'ai écrit de la fantasy et j'ai écrit pas mal de romans historiques. J'ai jamais vraiment vu de grandes différences entre les deux.
Sorry?
Parce que l'on parle de fantasy ou que l'on parle d'un monde secondaire, on essaie d'incorporer l'histoire de ce monde-là dans le récit. Et je pense que tout bon roman de fantasy est aussi en partie un roman historique. L'exemple le plus connu de ça, c'est Le Seigneur des Anneaux, qui en fait, quand on le lit, ça ressemble à un roman historique concernant la Terre du Milieu. Et pourquoi ? Parce que Tolkien connaissait absolument tout sur ce monde, et le connaissait sur le bout des doigts. Et une des choses qui alimente ça, c'est que Tolkien était lui-même nostalgique d'une Angleterre plus ancienne, qu'il a personnifié à travers la comté, mais même lui, il brûle la comté à la fin. Donc voilà, à propos de ça, mais en fait, pour résumer, donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de grande différence entre les deux.
Well, I've written classical fantasy, epic fantasy, urban fantasy, and uchronic fantasy. So, in all of them, yeah, there is a certain amount of nostalgia involved, but I don't think of it as the primary driver. I think of the story and the character as being the primary driver. However, right now, looking down at this panel and realizing I could be all of your mother, I'm feeling a certain amount of nostalgia for my own past.
The mother thing.
Mercedes Laquet se définit...
Non, sorry.
Excusez-moi, le fait que je comprenne, j'oublie parfois. je suis désolée.
Alors, Mercedes dit, j'ai écrit en fait toutes sortes de fantaisies, de la fantaisie classique, de la fantaisie épique, de la fantaisie urbaine, de la fantasy uchronique. Et effectivement, dans tous ces romans que j'ai écrits, il y a sans doute un peu ici et là, un peu de nostalgie, mais ce n'est pas l'élément essentiel qui motive les personnages et ce n'est jamais le moteur de l'histoire. Par contre, je réalise une chose là à titre personnel, c'est que compte tenu de mon âge, je pourrais être votre mère à tous, et là, je ressens un petit peu de nostalgie pour moi-même.
Ce à quoi Elisabeth, si je peux me permettre de traduire, a répondu « Je ne suis pas si sûre à propos de l'histoire de la mère. Donc, Mercedes, effectivement, votre univers de Valdemar, vos romans dans cet univers couvrent plus de 2500 ans d'histoire. Donc, est-ce que ça vous permet d'aller d'un endroit à l'autre de l'histoire de votre univers sans être gêné par « je me souviens plus, je ne sais plus ce qui s'est passé ». Vous êtes l'historicienne de votre propre univers.
Actually, I'm not the historian of my own universe. Thank God the fans are. When I have forgotten something or I need to know something, it is absolutely delightful to go and Google it and discover some fan has already written extensively about it, picked it apart, and put it back together again.
Alors non, malheureusement, je ne suis absolument pas l'historienne de mon propre univers, mais Dieu merci, pour ça j'ai des fans. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose ou que je pense à quelque chose qui me manque, il me suffit d'aller sur Internet, de taper ce que je cherche sur Google, et là, je trouverai toujours un site où des fans ont largement écrit et commenté autour du point que je cherche et où finalement ils vont m'apporter la réponse. Donc j'ai absolument pas besoin d'être historienne moi-même dans mon univers.
Est-ce que Oliver, j'ai lu un de vos interviews et vous disiez que nous avons envie de ce rêve en parlant de la fantaisie et qu'elle nous apporte ce rêve et un ailleurs rempli de lumière, de couleurs et de personnages forts. Alors cet ailleurs, c'est cet ailleurs auquel on pense et qu'on regrette.
Non, vas-y. Cet ailleurs, en fait, c'est celui qu'on regrette et celui qu'on espère. La fantaisie, en fait, pour moi, ça joue sur les deux. Et c'est surtout, en fait, ce que disait Mercedes, la nostalgie n'est jamais un moteur dans l'histoire, c'est toujours un moteur de certains personnages, pas de tous. Et donc, la fantaisie, en fait, c'est surtout un décor de magie, d'espoir, de grandes histoires, de petites histoires. Et en fait, on ne peut pas se dire qu'on écrit de la fantaisie tournée vers des choses du passé, ou des royaumes brisés, tout ce qu'on a, enfin, ce que disait Kay sur Tom Kiel est exactement vrai. Il détruit ce qu'il a créé, et en fait la fantaisie nous emmène dans un monde qui va vivre sans nous une fois qu'on finit un livre, qu'on peut continuer à imaginer ou qu'on peut retrouver des années plus tard écrit par le même auteur différemment. Et donc la fantaisie, en fait, est une espèce de berceau dans lequel on peut mettre des tas de choses, et chaque auteur va mettre un peu de lui, ses personnages vont prendre le dessus, et à certains moments, ça va être triste et tourner vers le passé, d'autres moments vers le futur. C'est une littérature sans limites, je serais tenté de dire.
Elisabeth, dans Chronique du Pays des Mers, si on peut en parler, il me semble que, enfin, c'est ma vision, vous me direz si vous êtes d'accord, l'histoire de la SF, c'est une histoire de SF qui montre qu'il faut quand même se tourner un peu vers le passé si on veut comprendre le présent. Et ça, du coup, ça correspond à ce qu'on nous demande, à ce qu'on espère pouvoir continuer à faire en continuant à apprendre l'histoire aux enfants à l'école. Et ces choses-là, est-ce que pour vous, c'est important de bien comprendre le passé pour avoir un futur ?
understand the past and a lot
more. Oui, je veux faire des questions.
Yes.
Je devrais faire des questions moins fermées.
I would remind you that the motto of Quebec is I remember, but they remember don't remember so well.
Le ressentiment, mais pour justement établir la ligne, la l'irrigation du temps, nous venons de quelque part, et quelque part, c'est le temps qui nous a modelé, de faire des familles de couches de la société, et si nous ne contrôlons pas le passé, bon, je ne vais pas vous faire, oui, je vais vous faire le coup.
Ceux qui ignorent le passé sont condamnés à le répéter.
Et bien tout le monde ignore le passé, parce que c'est vraiment embêtant de devenir plus vieux, c'est qu'on voit les choses se répéter. Et donc, de toute évidence, la mémoire humaine et de la société est de plus en plus courte. C'est genre le cycle de nouvelles, 24 heures. Et donc, vous, oui, en lettre grasse, majuscule, suivi de beaucoup de points. Oui, il est important de se rappeler de ça. C'était tellement bien. Non, c'était pas tellement bien. Mais voilà les conneries qu'on a faites. Ce serait peut-être utile de s'en souvenir. Ah oui, encore une fois.
Alors Sylvie, est-ce qu'être raconteur d'histoire, c'est permettre à la mémoire de perdurer et de ne pas voir les choses avec nostalgie, mais justement avec précision et pour s'en servir pour le futur? Oui, c'est... je peux la refaire si vous voulez. Est-ce que quand on raconte des histoires, on permet aux gens de continuer à se souvenir et de voir le futur avec ce qu'on sait déjà, de ne pas oublier ce qu'on sait? Allez.
Dans les écoles, c'est comme une histoire d'école de magicien. Un des sujets qui t'intéresse, c'est l'éducation. C'est bon. C'est pas l'éducation.
C'est
quand même pas... C'est bien concret.
Je conseillais au début le livre Haute École de Sylvie parce que c'est... Alors, j'imagine que peut-être vous n'aimez pas cette appellation, mais on a appelé le livre l'anti-Harry Potter. C'est-à-dire que...
Is that I had the idea before Harry Potter. The idea of the book, I had it in 1989, and since I'm a slow writer, I took a lot of time to write it out, to publish it. In the meantime, something happened called Harry Potter. But she doesn't mind at all.
Mais l'éducation va vers le futur plutôt. Les élèves qui sortent de votre haute école n'ont pas de raison d'être nostalgiques de leur enfance.
From the school, no reason to be nostalgic from their own childhood. And so he says, yeah, because they need to get things done. Because the technology is early 18th century.
Everything. Everything. Est assuré par la magie.
So every technology,
donc, par exemple,
technology
une ville,
is being
Le passé est quelque chose d'autre pour l'histoire. C'est effectivement un encadrement et un reconditionnement.
Est-ce que la fantaisie permet de manipuler le passé? Et du coup, est-ce que un libraire m'en parlait ce matin. Est-ce que le public français a pas un petit peu de mal, le public classique, je ne vais pas parler de vous qui êtes ici, mais le public classique a pas un petit peu de mal avec la fantaisie, parce qu'on la considère comme une littérature pour les enfants et tournée vers quelque chose d'un peu passéiste. C'est une question, je ne sais pas ce que je pense.
La fantaisie, ça déborde de combats et de monstres qui
se font
tuer.
Non,
j'ai pas. Non, mais pas passif, qu'est-ce que vous voulez dire?
Passéiste.
Ah, passéiste.
She was in the stood terms to what
passéiste. Oui, on l'a reproché à la fantaisie. On le reproche aussi à certains types de
fantaisie.
Mais. On ne reproche à personne de lire des contes parce qu'ils sont passéistes. Je pense pas que... Quand la nostalgie devient exagérée, vous parlez de passéisme, le syndrome du c'était mieux avant. Mais j'ai pas l'impression que c'est tellement de fantaisie parce que la plupart des auteurs de fantaisie, il y en a tellement maintenant, la plupart des auteurs de fantaisie ont une idée relativement. On a l'impression qu'ils ont une idée relativement vague de comment c'était avant. Quand on le voit faire galoper un cheval pendant une journée entière,
Alors là, on peut parler. Non, mais surtout, on peut en parler à Kai Meyer, qui lui est considéré comme un auteur de réalisme magique.
Well, I never said I'm a magic realism writer. Critics said that.
Yeah.
So I'm not so sure about realism in my books, but. Actually, I'm not so sure about the question. What's the question?
Comment est-ce qu'on fait vivre une fantaisie sans que ça soit complètement irréaliste et que les chevaux galopent sans s'arrêter pendant 3-4 jours?
I never invent imaginary worlds. All my fantasy novels are set in our history or exotic history like ancient China. Those are not historical novels, but I use a lot of historical background, and usually I use those bits and pieces to make the story more realistic for the reader. I mean, it's not, because the China I'm presenting in those books is a mythological China, but I put some bits and pieces from actual Chinese history in the books to make people believe in the world I try to create based on ancient China.
Tout d'abord, j'avoue que je n'ai jamais affirmé que j'étais un auteur d'un réalisme magique, c'est plutôt les critiques qui l'ont dit. Je ne sais pas très bien quelle est la part de comment répondre à cette question, mais en précisant, je dirais que je n'invente jamais un monde imaginaire. En fait, même mes romans de fantasy s'insèrent dans notre propre histoire, ou alors dans une histoire qui est exotique comme celle de la Chine ancienne. Alors, ce ne sont pas des romans historiques, mais j'utilise beaucoup d'éléments et de fonds historiques dans ces histoires. En général, c'est ce que je fais. J'utilise des morceaux, des aspects de l'histoire réelle pour justement les rendre réalistes. Mais c'est pas une histoire, c'est pas dans l'histoire réelle. Par exemple, dans La Soie et l'Épée, La Danse sans la Lumière, la trilogie du Peuple des Nuées, j'utilise plutôt des références à une Chine qui est mythologique plutôt que véritablement historique. Mais j'utilise des petits morceaux, des aspects de la véritable histoire de la Chine ancienne pour essayer de faire croire au lecteur au monde que je suis en train de créer qui est basé sur la Chine mythologique.
Oliver ?
Tu peux répéter la question.
Comment est-ce qu'on fait pour construire un univers fantasy qui soit crédible?
À l'inverse de Kay, moi je pars de choses complètement inventées. Comme ça, en fait, personne ne peut me reprocher de ne pas être crédible vu que j'invente tout. Comment on fait pour le rendre crédible? On invente tout un tas de règles qu'on respecte soi-même. Et c'est vrai que sur le coup des chevaux qui galopent des fois pendant 10 jours sans se casser une patte, ou des gars qui crapahutent pendant une semaine et en mangeant un lapin en 10 jours ou des choses comme ça, c'est pas toujours crédible. Et je crois que l'art d'une bonne histoire de fantasy crédible, c'est de savoir ignorer ces détails et de savoir le faire ignorer à son lecteur. C'est-à-dire que si à un moment donné le lecteur se dit hey, quand est-ce que le gars va au WC, c'est qu'on a raté quelque chose, quoi. Et en fait, il faut réussir à écrire une histoire sans que le lecteur ait cette idée. Donc il faut le distraire, c'est l'illusion, et il faut parler d'un petit truc sur son cheval, d'un petit truc qu'il a mangé, et rappeler au lecteur que bah, il est comme tout le monde, il boit, il mange, son cheval t'entend, bah, il lui resserre les sabots, et c'est peut-être avec des touches qu'on rend le tout crédible. Et avec ça, on peut se permettre des fois de faire apparaître un énorme dragon, on n'est pas du tout crédible, mais si c'est cohérent avec le reste, ça marche.
Merci. Mercedes, est-ce que vous faites faire des pauses techniques à vos héros?
No such as eating or going to the bathroom or having a bath.
Well, as anyone who's read the Valdemar books know, yes, I do.
oui, bah oui, effectivement, un petit peu comme tout le monde, oui, je le fais.
Bon, nous arrivons au terme de cette table ronde. Est-ce que je peux éventuellement prendre une petite question, si quelqu'un en a une, ou deux? Puisqu'on a été un peu raccourci au début, donc non? Non, on a eu des mousquetaires avant, c'était plutôt eux. Pas de questions? Non? Alors... Je vais juste demander aux auteurs si effectivement pour eux, dans la mesure où la fantaisie est peut-être une façon de réfléchir à nos aspirations, ils réussissent à le faire sans être trop nostalgique peut-être, ou en l'étant, chacun selon la position qu'il a adoptée. Est-ce que la fantasy peut nous permettre de répondre à nos aspirations?
Can fantasy allow us to do what we want in life and help us reach our goals? So this is, yes, I hope. If there's magic.
Well, when you're
born, we're not so far away from what you want. What would be that bridge?
Je n'ai pas vraiment écrit la fantaisie, disons, traditionnelle. Dans la mesure où j'ai écrit, c'est une fantaisie chronique qui est déjà historique. Mais en tant que lectrice de fantaisie, moi, je trouve autant dans les livres de fantasy que dans les livres de science-fiction ou dans la Terre urbaine des réponses à des questions biodégradables, à des questions que je me pose, des choses qui satisfont mes désirs, qui répondent à mes rêves, qui répondent à mes aspirations, oui, ne serait-ce que parce que ça me permet de rêver pendant un temps X, dans un rêve qui a un commencement, un développement et une fin. Et après laquelle je peux continuer à rêver. and she can build a dream.
Ne serait-ce que ça, pour moi, c'est déjà énormément.
C'est
déjà énormément satisfaisant. Est-ce que c'est plus satisfaisant dans la fantasy que dans la science-fiction? Non, mais l'aspect nostalgie positif, cette espèce d'aura, de passé, de choses qui sont loin ou qui sont perdues, que je trouve dans beaucoup de récits de fantasy, du moins ceux que j'aime, qui me plaisent. Ça, peut-être que c'est plus satisfaisant dans la tradition que dans la science-fiction. Encore une fois, l'idée de la civilisation non humaine qu'on a ratée de quelques millénaires ou de quelques millions d'années, ça aussi, ça me transporte dans un temps et un espace qui me permettent de m'étendre, qui me donne dans ma nouvelle dimension.
Kai?
I don't think that very much to add to what it was. So it's no, actually I see it very in a very similar way.
Oliver?
Je pense pas avoir grand chose à ajouter. Je vois les choses de façon très similaire, effectivement.
Je dirais la même chose,
oui.
Mais je rajouterais que la fantaisie est aussi à notre image, à l'image des auteurs, des lecteurs, et que tout ce qu'on peut être nous, on le met dans nos personnages, et que ce soit au niveau de la nostalgie ou de l'espoir, c'est-à-dire qu'on regarde devant ou derrière, c'est, la fantaisie c'est un décor, c'est des aspirations, mais ça reste en fait très contemporain.
It's been kind of my experience that readers find the answers in the books that they already know, but they just haven't realized it yet. So the right book at the right time actually becomes something of a catalyst for something that was already there.
En fait, mon expérience d'écrivain m'a montré que les lecteurs trouvent souvent dans les livres des choses qu'ils savaient déjà, mais qu'ils n'avaient pas encore conscience, ils n'avaient pas encore réalisé qu'ils le savaient. Donc c'est un petit peu le fait de trouver le bon livre au bon moment et qui va permettre d'être un révélateur pour des choses qu'on a déjà en soi.
Eh bien, merci à tous. Vous pouvez retrouver les auteurs sous la bulle du livre en signature, et il y a d'autres conférences qui suivent.
Merci. Ça a été un peu dur.
Au début,